le positivisme qui a été reconnu depuis 1800, à la moitié du 19e siècle, toute la critique du positivisme qui est qu'on traite des faits comme des choses, c'est-à-dire que au fond, on pense que la cible, le centre de la cible préexiste aux décisions des juges. Il y a d'abord une décision juste, exacte, et puis vous avez des juges qui tirent dans tous les sens, et après, en fait, ils se trompent, donc, et finalement, l'idée, c'est que, grâce à l'algorithmique, on va les ramener à la bonne réponse. Alors, ça nous vient, cela, de la courbe d'une application indue, la courbe de Gauss-Laplace. Tout le monde connaît cette courbe d'une importance extrême pour traiter des phénomènes de probabilité. On sait que cette courbe a d'abord été utilisée par les astronomes pour repérer des corps célestes. L'idée étant que vous aviez tout un tas d'astronomes qui prenaient des mesures, qui avaient des problèmes d'exactitude dans leurs mesures pour tout un tas de raisons, la laxité, etc., qui étaient positionnés à différents endroits de l'Europe ou de la Terre, et que en plaçant leurs différentes mesures sur une courbe, eh bien, on allait pouvoir trouver, c'est un peu comme la théorie de la sagesse des foules, hein, si on demande à une foule de peser exactement, d'évaluer le poids de cette bouteille, eh bien, si je prends toutes vos évaluations, que je trace une courbe de Gauss, normalement, la sagesse des foules fait que vous allez trouver la bonne réponse, alors que si je demande à un expert d'évaluer, etc., il va avoir moins de chances d'avoir raison que vous. Donc, ok. Sauf que, évidemment, le corps céleste, à un moment, peut vérifier effectivement qu'il est bien quelque part. Ça, c'est sûr. Donc, ce sont des tentatives de trouver sa position exacte, et cette technique fonctionne bien. Ceci étant, on a dit, déjà, c'est le programme dessiné par Laplace, mais que Laplace n'a pas mis en place, n'a pas eu l'occasion d'appliquer lui-même, qui est que, au fond, cette courbe de Gauss pourrait valoir pour l'étude de tous les phénomènes réguliers qui sont dans la nature. Alors, j'ai peur que ce soit trop petit comme caractère pour les uns et les autres, inutile de se mettre à porter des lunettes si vous ne pouvez pas lire. Je pense que c'est trop petit, c'est même trop petit pour moi. Mais donc, ce sont des phénomènes de la météo, des éléments relatifs à la floraison, des éléments relatifs aux animaux et, bien entendu, des éléments relatifs à l'homme. Et celui qui a mis en place le programme de Laplace, qui l'a mis en œuvre plus exactement, c'est Adolphe Quetelet, qui est également un astronome, un mathématicien, un astronome, mais qui a développé les statistiques et qui a écrit en 1834, je crois, un essai de physique sociale qui a eu beaucoup d'écho, à tel point qu'Auguste Comte, qui avait adopté ce terme-là, a décidé de changer pour sociologie, finalement. D'autant plus qu'il ne partageait absolument pas l'approche quantitative. Auguste Comte était très hostile à l'approche quantitative qui était celle de Quetelet. Mais donc, l'idée, c'était effectivement, Quetelet a contribué à constituer le social, par exemple, en disant, mais en fait, c'est très bizarre, mais chaque année, il y a à peu près le même nombre de crimes et de délits, et même chaque année, il y a à peu près le même nombre de vols, il y a à peu près le même nombre de meurtres, etc. Donc, c'est finalement, par rapport à une vision de la société, je m'égare complètement, mais c'est tellement intéressant comme idée, par rapport à une vision de la société des gens du 18e, 19e siècle, où l'image de la société, c'était ce que le droit en disait, finalement. Tout d'un coup, apparaît une sorte de réalité des faits, par les statistiques où voilà, le social qui apparaît et ça va avoir des conséquences tout à fait décisives au niveau notamment de la pensée juridique et des méthodes de raisonnement juridique. Bon, le problème de Quetelet, c'est que lui réagit en bon positiviste, c'est-à-dire que par exemple, il fait des courbes dans lesquelles il fait des statistiques sur la taille des personnes. Et il invente d'ailleurs l'idée d'homme moyen. On lui doit, par exemple, quand on parle de français moyen, c'est à cause de Quetelet. Et donc, l'homme moyen, pour lui, donc, on groupe toutes les tailles, hein, depuis, je ne sais pas moi, 1 mètre jusqu'à 2 mètres, et puis on va voir que, au niveau de la médiane de la courbe, on va avoir une taille qui sera une taille moyenne ça varie évidemment au fil du temps. Et pour Quetelet, c'est très clair quand on le lit, l'homme moyen, c'est l'homme normal. Hein? Lui, c'est la vérité. Par contre, les personnes de petite taille ou les géants, c'est des erreurs. Ce sont des erreurs de la nature, comme les mesures des astronomes qui se trouvaient aux extrêmes étaient des erreurs. Et donc, ce qu'il faut viser, c'est la normale. Je ne sais pas si vous me voyez déjà venir, mais j'arrive. Je vous assure, j'arrive. Il faut faire encore un pas de plus, après Quetelet, et aller vers Galton. Alors, Galton, on le connaît. On le connaît, c'est un polymathe, il est expert en tout, c'est le cousin de Darwin, c'est le fondateur de l'eugénisme, pour ne balancer ici que des lieux communs. Et lui observe, toujours sur la taille des gens, il observe et il dit, génétiquement un phénomène dans la nature, c'est que les enfants des géants ont une taille certes supérieure à la taille moyenne, mais qui tend à... Ils sont quand même moins grands que leurs parents, que leurs pères.